L'économie des festivals, leur dépendance aux subventions, leur fragilité, mais aussi leur dynamisme et leur offre culturelle, musicale, puisqu'on parle de festivals de musique. C'est la suite de notre discussion de tout à l'heure avec Emmanuel Négrier, directeur de recherche CNRS en sciences politiques au Centre d'études politiques de l'Europe latine à l'Université de Montpellier 1, en duplex depuis France Bleu Hérault. Nous avons commencé à évoquer brièvement un phénomène de concentration dû à l'apparition de géants dans le secteur qui ne lasse pas d'inquiéter les petites structures. Et nous avons un géant dans ce studio. Bonjour, Angelo Gopé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Vous êtes le directeur France de Live Nation. C'est le numéro 1 mondial de l'organisation de concerts que je vous laisse présenter, j'allais dire, en quelques chiffres, parce que c'est vrai que c'est le plus impressionnant. 26 000 concerts chaque année dans 40 pays du monde et...
C'est 29 000 maintenant, ah. Et c'est quasiment un événement Live Nation toutes les 18 minutes au monde. Et 4 000 artistes qui ont représenté les spectacles en 2017.
Plus de 70 millions de spectateurs, 3 300 artistes sous contrat, des bureaux dans 40 pays, c'est ouais. Ça. 6 000 salariés, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros en 2016. Bref, en un mot, c'est à peu près l'équivalent des budgets d'Universal Music et Sony Music, c'est ça, réunis confondu. À peu près, confondus.
C'est 2016 et 2017, ça a été 10 milliards.
Comment Live Nation est arrivé en France ?
En 2008, Live Nation a arraché la société de Jackie Lombard, qui s'appelait Jackie Lombard Productions. Et donc, moi, j'ai rejoint Live Nation en 2009 pour essayer d'apporter un autre virage, une autre vision par rapport à ce qui était une société française. Parce que ce qui est important de dire, c'est que c'est une filiale américaine, mais qu'il faut avoir une vision de ce qui est la musique en France et la filière musicale, donc avec un développement qui concerne uniquement la France.
Mais Live Nation est d'abord arrivé en 2004, c'est ça, par Arras, par le festival d'Arras dans le Pas-de-Calais.
Oui.
C'est ça.
Un peu plus tard, je crois, 2003-2004, ça a commencé,
ouais,
mais c'était
ça.
Pas d'abord Live Nation. Live Nation a racheté plus tard.
Bon, déjà, à l'époque, ça avait commencé à faire parler, je crois,
ouais,
que voilà, Radiohead était là, enfin, les aficionados commençaient à dire Radiohead se vend, tout comme d'autres groupes, parce que, pour bien expliquer, vous proposez quoi, vous, par rapport à ce qui se faisait depuis longtemps et partout en France dans les festivals, c'est-à-dire cette économie mixte dont on parlait tout à l'heure avec Emmanuel Négrier. Vous, c'est un schéma complètement différent.
Un schéma complètement privé. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide de l'État. Et c'est de se dire aujourd'hui quels sont les modèles de festivals, comment on peut arriver à amener de nouvelles formes de festivals, et surtout de se dire qu'on ne peut pas dupliquer sur les territoires les mêmes festivals et sur les mêmes régions la même chose. Et je pense qu'il faut que chaque festival ait sa propre économie. C'est d'où la problématique que les gens se posent aujourd'hui par rapport à la concentration et le désinvestissement de la puissance publique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut un festival qui représente les musiques actuelles. Et les musiques actuelle, c'est pas forcément que des musiques urbaines, mais c'est la musique rock, la musique pop, la variété. Et je pense que c'est surtout ça qui est assez compliqué au jeu de mettre en place.
Donc vous parlez de territoire, alors qu'on vous soupçonne quand même, et parce que vous êtes un grand groupe avec tous ces chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, mais de plutôt donner dans la réflexion sur ce qui sera rentable et ce qui rapportera le plus de spectateurs et donc d'argent.
Alors, il y a deux choses. Évidemment, comme toute entreprise privée, on parle de rentabilité, mais surtout ce qui est le plus important pour nous, parce que nous sommes producteurs de spectacles et pas que producteurs de festivals. Donc, il est important pour nous qu'on arrive à développer des artistes tout le long de l'année pour pouvoir venir jouer dans ces festivals. Et je pense que si on développe pas aujourd'hui d'artistes, on n'a pas de tête d'affiche.
Mais non, allez-y, parce qu'on va donner la parole à Emmanuel Négrier, mais justement, vous pointez le doigt sur le cœur de l'affaire, c'est que vous vous occupez des artistes du début à la fin et de ces festivals sur une chaîne horizontale qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire votre domaine d'action va bien au-delà de la simple organisation.
Oui, mais il n'y a pas que Live Nation, il y a aussi des producteurs français qui le font et qui ont aussi d'autres festivals. Donc c'est pas propre à Live Nation, c'est propre aux producteurs de spectacles.
Emmanuel Négrier, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que ça a changé, vous, dans le processus, l'apparition de Live Nation comme d'autres ?
D'abord, ça a créé une espèce d'électrochoc en France. Angelo Gopi dit qu'il est le défenseur et un levier pour le développement des musiques actuelles. Il y en avait déjà, mais c'est vrai que l'entrée de Live Nation... Et plus généralement, le contexte d'augmentation des coûts techniques, la limitation des fonds publics, etc., a fait que il y a une compétition de plus en plus vive qui s'est installée en France. Et en France en particulier, c'est intéressant de voir pourquoi la France est un terrain spécifique. Alors, c'est pas le seul, hein, bien sûr, mais un terrain spécifique de cette compétition. C'est qu'il y a une activité festivalière très forte, assez fortement soutenu, plus qu'ailleurs, par les subventions publiques. Et l'une des anticipations que ces entreprises, pas seulement Live Nation, également Vivendi, également AEG, également vente privée, etc., donc tous les acteurs qui essayent de réunir des forces pour investir fortement dans le secteur musical d'un point de vue industriel, ces entreprises anticipent le fait que ces subventions vont être de moins en moins importantes et qu'il va pouvoir y avoir, disons, des affaires à faire dans l'économie festivalière. Mais aujourd'hui, l'une des intrigues, c'est que, du strict point de vue de la gestion des festivals, la rentabilité est soit extrêmement médiocre, même quand il y a un succès public d'un festival, ou alors elle est même nulle ou négative, et ces entreprises perdent de l'argent sur le créneau strict de certains festivals.
Alors, qu'est-ce qui vous
intéresse ? C'est intéressant de voir pourquoi.
Ouais. Et donc, Angelo Gopé, qu'est-ce qui vous intéresse dans le marché des festivals pour que vous y mettiez autant d'énergie ?
C'est exactement ce que vient de dire
Monsieur Négrier,
c'est qu'aujourd'hui, on parlait de développement de producteurs, on a besoin de plateformes. Nous, on a créé un festival à Paris qui s'appelle Le Lollapalooza. Pourquoi ? Parce que nous avons des artistes qui ont besoin de jouer en festival. Et à Paris, que ce soit sur Willow Green et sur Rock en Seine, ils n'avaient pas leur place. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de plateforme de représentativité pour nos artistes.
Pourquoi ils n'avaient pas leur place ?
Parce que c'est des artistes pop, parce que c'est des artistes de variété, et que Rock en Seine et Willow Green sont tournés beaucoup plus à la musique urbaine ou à la musique branchée ou indie. Et donc, des artistes comme Dua Lipa, que nous avons cette année, ou comme Dadju, ou comme Zara Larsson, n'avaient pas leur place dans les festivals. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire que la musique actuelle, ce n'est pas que la musique urbaine, ce n'est pas que la musique électronique, c'est la variété, c'est la pop, et c'est toutes ces musiques-là qui ont leur place en festival.
Alors, tout est parti, et l'idée de cette émission aussi, Angelo Gopé, de cette affaire, entre guillemets, dans le monde des festivals, la star du rap américain Kendrick Lamar, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, qui est à l'affiche du Paris Summer Jam le 24 août prochain, organisé par vous, par Live Nation. Problème, l'organisatrice de Rock en Seine, l'équipe organisatrice qui est Rock en Seine, qui est un autre géant, géré par un autre géant, AEG, numéro 2 mondial dans la gestion des salles de concert, affirme avoir calé Kendrick Lamar avant vous, mais que vous l'auriez, disons, siphonné. Et Rock en Seine commence aussi le 24 août. C'est une grosse concurrence qui de faire monter sur scène un même jour Kendrick Lamar, IAM et Nerd, alors que Rock en Seine commence. Enfin voilà, on part de guerre des festivals.
Pas de guerre de festivals. Je pense que déjà, il faut savoir que Kendrick Lamar est un artiste Live Nation. Donc on a fait le concert cette année.
Parce que vous le produisez,
Exactement.
Les artistes.
Donc on a produit Live Nation, on a produit Kendrick Lamar à l'Accor Hotel Arena cette année. On devait le produire le 24 août à Paris. Et Rock en Seine a fait une surenchère sur Kendrick Lamar.
Rock en Seine dit l'avoir contacté sans rentrer dans des détails.
Si c'est un artiste Live Nation, ils ne peuvent pas le contacter avant nous. Le rapport direct, il est artiste Live Nation, il n'est pas Rock en Seine Live Nation. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à se dire, mais comme c'est un artiste Live Nation, nous avons fait un concert et on est parti du principe que c'était intéressant de mettre d'autres artistes ce jour-là parce que vu le cachet qu'avait offert Rock en Seine à Kendrick Lamar, on a été obligé d'aller dans une plus grande salle, alors qu'au début, nous devions aller à l'Accor Hotel Arena avec un pris des places pas chères, ils ont surenchéri sur notre offre et du coup on s'est retrouvé à l'Arena et on a ajouté des artistes. Mais je pense que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que il y a pas de concurrence parce que deux jours après Rock en Seine, nous faisons Britney Spears à Bercy. Quelqu'un a dit que Britney Spears faisait de l'ombre à Rock en Seine. Non, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a un débat qui va être mis en place sur une opposition de géants américains. Il n'y a pas d'opposition. AEG, ils ont acheté Rock en Seine avec Tupigas. Nous avons développé des festivals. Je pense qu'il y a 1900 festivals en France à l'heure actuelle. Et c'est pas parce qu'il y a deux nouveaux festivals que ça risque de mettre en danger. Ce qui met en danger les choses, c'est de se dire aujourd'hui qu'effectivement, le désengagement de la puissance publique va mettre à mal beaucoup de festivals. La circulaire Colomb va mettre à mal beaucoup de festivals. Si on ne cadre pas aujourd'hui...
C'est quoi la circulaire Colomb en l'occurrence ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les festivals sont obligés de payer les forces de l'ordre.
Et donc, nous parlait Emmanuel Degré tout à l'heure. Oui.
Donc ça va être... Et les bénévolats et la remise en cause du cadre des bénévoles va mettre à mal les festivals.
Emmanuel Négrier, votre réaction là-dessus, c'est-à-dire
Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure à propos de cette guéguerre, si c'est pas une guerre, c'est en tout cas pour l'instant une guéguerre, je pense qu'il y aura une grosse compétition assez frontale entre les grandes entreprises mondiales sur les questions de festival et pas seulement sur les questions de festival dans tout le secteur musical. Le problème que ça pose, votre affaire, c'est la dépendance accrue des artistes à l'égard de ces entreprises. C'est jusqu'à présent, un artiste, il avait en face de lui différents opérateurs en fonction des opérations qu'il voulait mener. Un concert dans une salle, une tournée, la participation à un festival, l'enregistrement d'un disque, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le 360, c'est le fait qu'une seule entreprise peut proposer à des artistes toute la gamme d'activités.
360
Vivendi
degrés.
Essaye de le faire. 360 degrés ou de concentration diagonale sur tous les supports. Du coup, les artistes sont de plus en plus dans la main de ces entreprises.
Vous voulez dire repérage, alors, production, communication?
Je suis d'accord, mais moi je suis d'accord avec vous. Mais nous, on lutte contre ça. Je pense qu'aujourd'hui, cette concentration de gens qui ont le disque, les tournées et le reste, ce n'est pas normal. Et les artistes aujourd'hui en payent les conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, la véritable difficulté, c'est de se dire comment allons-nous développer de nouveaux artistes. Et donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a quand même un phénomène dont vous ne parlez pas qui est crucial, c'est que hier soir, à l'Assemblée, il y a un rapporteur qui a mis en cause le crédit d'impôt, qui quand même, depuis 2017, a permis de développer 250 nouveaux artistes, de créer 160 emplois et d'avoir 875 nouveaux projets sur la route. Et ces nouveaux artistes-là ont besoin d'aujourd'hui de moyens pour pouvoir, demain, être sur les scènes de festival.
Emmanuel Négrier ?
D'accord, néanmoins, ça pose quand même un petit problème. C'est pas parce que la puissance publique n'est pas toujours au rendez-vous de ses missions ou de ses vocations que pour autant la présence de grandes entreprises multinationales dans le secteur jusqu'à présent d'économie mixte ne pose pas de difficultés. Je pense qu'on peut lui attribuer une partie de l'augmentation des cachets artistiques par la pratique des contrats d'exclusivité. Vous avez évoqué tout à l'heure une affaire qui est une compétition sur deux événements qui sont dans une logique effectivement de guerre commerciale tout à fait évidente.
Et en face, Emmanuel Négrier, les associations à but non lucratif, celles qui organisent des festivals comme par exemple les Vieilles Charrues à Carhaix, par exemple, ouais. Je crois que vous avez étudié cet exemple, comment elles font face puisqu'elles n'ont pas les moyens de jouer la compétition.
Ben, ces entreprises, ce sont des entreprises. Hein, ces entreprises, même si elles sont à but non lucratif officiellement parce qu'elles sont gérées par des associations de loi 1901, leur réflexe aujourd'hui est intéressant d'ailleurs. Hein, c'est un réflexe de coopération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, disons, un directeur artistique de festival, c'était le maître après Dieu chez lui, et personne ne discutait d'une part de son autorité, d'autre part, il considérait tous les autres comme des médiocres ou des inférieurs. Aujourd'hui, les patrons de festivals se rendent compte, en tout cas des festivals indépendants, se rendent compte qu'il faut vraiment instaurer des coopérations et des pratiques vertueuses entre eux, sinon il va y avoir du sang sur les murs, si vous me permettez la métaphore. L'autre problème que ça pose, c'est le problème de l'émergence. Ces petites associations ont fait naître des artistes. Les grandes entreprises, je ne dis pas qu'elles ne font pas rien en matière d'émergence, au contraire, elles ont intérêt à investir aussi auprès des nouvelles pousses et leur proposer d'ailleurs plus facilement qu'avec les artistes reconnus des contrats à 360 degrés. Mais le problème
rapidement, on arrive
global,
à la fin de cette émission et Angelo Gopé voilà, voulait réagir, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on fait de ces petites structures culturelles qui ont fait naître des artistes et qui ensuite ne voient absolument pas leur investissement reconnu?
Angelo Gopé.
Mais je pense que ces petites entreprises, nous les aidons. Au Vieille Charrue, nous avons cette année apporté des Depeche Mode, Kygo, qui sont des têtes d'affiche. Nous développons des artistes français que nous mettons aussi sur scène. Je pense que Il y a quelque chose qui est hyper crucial et qui est important, c'est déjà, un, il peut pas y avoir d'opposition entre le public et le privé. Il y a des passerelles qui doivent être mises entre les deux parce que le public a besoin du privé et le privé a besoin des festivals pour les plateformes, pour leurs artistes. Je pense que le débat, il doit être beaucoup plus large et moi, j'en appelle à aujourd'hui des états généraux de la culture pour que les gens s'assoient ensemble autour de la table et qu'on ait une seule vision, c'est comment demain pouvoir pérenniser les festivals et aider les artistes.
Bon, bah, vous allez pouvoir discuter ensemble et prolonger la discussion puisque malheureusement le temps qui nous est imparti pour celle-ci est assez court. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été avec nous. Emmanuel Négrier, directeur de recherche CNRS en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Peut-être citer un festival qui va commencer, que vous voulez mettre en avant là tout de suite.
Fiesta 7, tiens, vous avez parlé des voix vives
tout à l'heure.
C'est un spot de l'activité festivalière en France.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Angelo Gopé, directeur France de Live Nation. Et vous avez encore un mois pour vous préparer au gros concert.
Et surtout, on a Lollapalooza ce week-end. Pour ceux qui veulent venir, l'hippodrome de Longchamp.
Merci beaucoup. Dans 6 minutes, Fanny Ardant sera avec nous pour parler d'un film diffusé ce soir sur Arte, Journal de ma tête, tiré d'un fait divers et dans lequel elle joue une prof de français. On en profitera pour parler littérature.